Tout d'abord, juste de partir de ce que Victoria a dit, qu'arriverait-il si le service volontaire était rendu obligatoire à des universitaires? Ben, c'est un peu ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait un parcours dans le scoutisme, puis après, j'ai rentré au bac en anthropologie sociale et culturelle à l'Université Laval. J'ai arrêté le scoutisme un peu parce que je crois que quand on s'engage pleinement, puis là, j'avais moins de temps, donc... Mais, à la maîtrise, je suis revenu en force parce que j'ai décidé de faire un projet, mon projet de maîtrise, mon mémoire sur le discours de paix de ce mouvement-là. C'est un peu cela que je viens vous présenter ce soir. Alors, il y a beaucoup de l'anthropologue qui va parler aussi, mais je suis là pour l'Association des scouts du Canada, l'ASC. Donc, dans cet exposé, la perspective de l'anthropologie sociale et culturelle sera mise à contribution afin d'apporter un nouvel éclairage sur un phénomène social qui semble transcender à la fois les cultures, les frontières culturelles, si on veut, et le temps, vous aurez compris, celui de la paix. Plus précisément, des représentations sociales de la paix. Cette paix imaginée, réelle, fictive ou vécue, je vous propose de l'étudier au sein d'un mouvement social reconnu mondialement. Vous aurez compris, l'Organisation mondiale du mouvement scout, OMMS. Puisque j'ai passé moi-même 12 ans au sein de ce mouvement, de l'âge de 9 ans à l'âge de 21 ans, je porte en moi, si on peut dire, cette culture scout qui stimule et facilite ma compréhension de la logique interne du scoutisme. Il existe au sein de la discipline anthropologique une certaine tradition qui s'efforce de repousser la frontière des préjugés. C'est ce que je vous propose de faire dans un premier temps, en ce qui concerne les préjugés persistants à l'endroit du scout et du mouvement auquel il s'identifie. Jean-Jacques Gauthé, président de 1907 du réseau interdisciplinaire de recherche sur le scoutisme et les mouvements de jeunesse, explore les idées reçues ou idées préconçues par rapport au scoutisme dans son plus récent ouvrage intitulé « Les scouts » en 2007. Dès l'introduction, il écrit « Le scoutisme laisse rarement indifférent. Peu d'institutions ou d'organismes éducatifs suscitent tant de jugements aussi tranchés et d'opinions définitives. On peut difficilement expliquer cette cécité sociale qui fait en sorte que la représentation du scoutisme oscille entre des excès de critiques ou de louanges. » Comme le dit Gauthé. Chose certaine, cela montre avant tout que le scoutisme est mal connu. L'Organisation mondiale du mouvement scout rassemble à l'heure actuelle plus de 28 millions de scouts actifs dans 216 pays et territoires. Lors du dernier grand rassemblement mondial de scouts, le 21e Jamboree mondial, comme on l'appelle, en Angleterre, l'organisation est entrée dans le livre Guinness des records à la suite d'une remise d'un certificat la représentant comme la plus grande organisation de jeunesse au monde. Ce Jamboree mondial a lui-même permis de rassembler 40 000 participants de 156 pays dans un espace qui établissait un autre record mondial, et là, c'est en anglais, « The construction of the biggest tented facility in Europe », un village de 40 000 personnes qui ont toutes planté leur tente, vous pouvez imaginer. C'est là que j'ai fait ma recherche. Bon, avec un tel événement qui rassemble plus de pays que les Jeux olympiques, le mouvement scout ne peut que retenir l'attention et incite à une meilleure compréhension de ses intentions. Comment le définir, donc, le scoutisme? Pourquoi ne pas commencer parce qu'il n'est pas? C'est ce qu'a fait Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement, dans un texte qui date de 1910. Là, je le cite. « Voici quelques-unes des choses que le scoutisme n'est pas. » Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance dirigée par des gens du monde pour le bien des enfants pauvres. Ce n'est pas une école avec un plan d'études et des programmes d'examen bien définis. Ce n'est pas, j'insiste, une troupe d'officiers et de soldats destinés à donner de la virilité aux garçons et aux filles à coups d'exercices militaires. Ce n'est pas une agence de petits messagers pour la commodité du public. Ce n'est pas une exposition où des résultats superficiels sont obtenus grâce à la distribution d'insignes, de mérites, de médailles, etc. Tout cela viendrait de l'extérieur, tandis que l'éducation scout vient tout entière du dedans. Comme le dit Marine Digabel, auteure de « Scout, une piste pour grandir », aussi paru en 2007 dans le cadre des 100 ans du mouvement scout, Le scoutisme n'est pas une théorie, c'est une expérience. On y découvre des valeurs, le sens de l'autre, la vie en équipe, l'engagement, l'effort. Il, le scoutisme, n'impose rien. Il n'enseigne aucune doctrine. Mais ceux qui sont passés par là ont en commun le sentiment que l'engagement compte, que la vie de l'autre compte aussi, et que tout cela concourt à quelque chose de plus important encore, c'est-à-dire réussir à vivre ensemble. On peut aussi trouver une définition du scoutisme et une description complète de ses intentions dans le texte constitutif, la Constitution, de l'Organisation mondiale du mouvement scout, dont la version actuelle a été approuvée par la 26e Conférence mondiale du scoutisme à Montréal en 1977. Un des articles de cette Constitution décrit notamment le but de ce mouvement éducatif, qu'on sait ouvert à tous et fondé sur le volontariat. Donc, contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques et intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que citoyens responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales. Le scoutisme est donc une méthode, dans le sens où elle propose des moyens. Plus encore, c'est une méthode d'éducation active, puisqu'elle incite les jeunes à agir eux-mêmes sur leur propre développement, et ce, dans chacune des dimensions de l'humain. Enfin, le mouvement scout doit être compris non pas comme un simple mouvement de loisirs ou un mouvement de plein air, mais bien comme un mouvement d'éducation non formelle, profondément ancré dans le social et le bien-être collectif. C'est dans cette optique qu'il devient très pertinent de se pencher sur le discours social de paix, qui est au cœur de ce mouvement de jeunesse depuis sa fondation. Mouvement scout repose sur le principe d'adhésion à une promesse et une loi. Cette adhésion, on peut le lire dans la constitution de l'OMMS, doit aussi inclure trois principes reflétés dans la loi. Ces principes sont le devoir envers Dieu, le devoir envers autrui, le devoir envers soi-même. Alors que le devoir envers Dieu renvoie avant tout à une adhésion volontaire à des principes spirituels et le devoir envers soi-même à la responsabilité de son propre développement, celui envers autrui est décrit plus longuement dans la Constitution. Il est formulé ainsi. La loyauté envers son pays dans la perspective de la promotion de la paix, de la compréhension, de la coopération sur le plan local, national et international, la participation au développement de la société dans le respect de la dignité de l'homme et de l'intégrité de la nature. L'identification de ce principe du devoir, qu'on pourrait dire aussi service, apporte un nouvel éclairage sur la paix, tel que conçu au sein du scoutisme. En effet, il fait voir une paix qui semble investie davantage par la notion de devoir que celle, par exemple, du droit. OK, nous savons déjà que plusieurs organisations telles l'ONU, l'UNESCO, accordent une grande importance aux droits et libertés. Ainsi, tout comme l'OMMS, elles ont une vision de la paix qui s'appuie fondamentalement sur un cadre symbolique puissant qui est, dans le cas de l'ONU ou de l'UNESCO, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, à la différence de la loi scout, ce cadre symbolique met davantage l'accent sur le droit et non sur celle du devoir. Bon, bien évidemment, les notions de droit et devoir sont interreliées et se répondent dans une certaine mesure. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de paix que propose le scoutisme révèle une préférence pour une approche fondée en premier lieu sur le devoir, la bonne volonté, l'engagement symbolique face à une loi. Je tiens à le dire, la loi scout, dans le fond, se décline en 10 articles qui sont tous énoncés de manière positive. Donc, c'est pas tu ne devras pas faire, mais plutôt un encouragement. Donc, la loi scout est plus particulièrement l'engagement personnel et volontaire envers autrui. J'aimerais aussi souligner, enfin, un dernier principe tout aussi efficace, voire indispensable, pour assurer la mise en place d'une telle conception de la paix. C'est-à-dire la croyance profonde que rien n'est impossible. Cette croyance est en quelque sorte la clé de voûte qui soutient l'ensemble de la notion de paix dans le scoutisme. Elle est en général au cœur de l'imaginaire de paix du scout et du scoutisme en entier. Comme le dit Eduardo Missoni, ancien secrétaire général du Bureau mondial du scoutisme, la vraie tradition du scoutisme, c'est l'innovation. Sans cette capacité à innover au niveau social, laquelle représente la marque de commerce du mouvement scout, celui-ci court le risque de perdre l'intuition originale de Baden-Powell. De là toute l'importance de conserver et réaffirmer l'imaginaire de paix qui fonde l'expérience scout, car celui-ci est à la source du désir de l'altérité sociale, de la capacité à innover pour s'adapter et répondre aux besoins de la société. Et je conclurai. La paix abordée à travers l'expérience du scoutisme semble bel et bien posséder les principales caractéristiques d'une paix positive, donc entendue comme un effort et une recherche active de justice sociale. Elle contient l'essence d'une paix dite positive, puisqu'elle ne se contente pas d'une absence de violence, mais permet au contraire le développement et le maintien d'une justice sociale au moyen d'une pédagogie pouvant être décrite comme une véritable éducation à la paix. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la graine, disait Gandhi. La notion de paix du scoutisme en est une d'action et de valeur. Elle contient en elle une utopie des moyens et non l'utopie d'une fin. Elle n'offre pas de solution miracle pouvant apporter une paix éternelle, mais se contente plutôt d'imaginer des façons de surmonter les réflexes de la culture de guerre. Certes, l'exploration de ce type de paix demeure incomplète puisque la nature d'un fait social n'est jamais fixe. La paix demeure un enjeu de débat constant où le plus difficile est de s'entendre pour continuer d'avancer. Merci beaucoup.